Chapitre 4. Complice. En quittant M. Farrington, le petit vendeur de journaux n'avait encore accompli que la moitié de sa tâche. Il jeta son petit paquet d'evening et de poste dans une bouche d'égout et sauta dans un autobus à destination de Southwark. À une demi-heure plus tard, il en descendait et s'engageait dans les étroites ruelles qui partent de Borough. Là, un éclairage moins intense permettait au brouillard de bloquer complètement la vue. Des maisons invisibles venaient de temps à autre des éclats de voix ou des bribes de chansons. Le gamin, connaissant bien son chemin, courait sur le pavé glissant et tournait de temps en temps la tête comme par crainte d'être suivi. Sur tout son parcours, cependant, il rencontra âme qui vive et il atteignait l'entrée de l'allée où il devait entrer lorsqu'il se heurta soudain à la masse pesante et puissante d'un gros homme dont il aperçut que les deux larges mains tendues vers lui. Il n'hésita pas une seconde, se jeta sur le côté, fit quelques pas, entraînant ainsi l'homme à sa suite, puis se précipitant, la tête baissée sur le poursuivant, le mordit cruellement au bras. L'homme poussa un rugissement de douleur, tandis que le gamin revenait en arrière et disparaissait dans l'étroite vallée que l'autre se mit à chercher vainement à tâtons. Tout essoufflé, le petit messager attendit un moment que l'homme se fût éloigné, puis alla heurter doucement à une porte au fond du couloir. La porte s'ouvrit. La chambre dans laquelle il entra était misérable et sordide, meublée d'un pauvre grabat, d'un tableur sapin et de quelques chaises. En tâchant de faire disparaître de ses mains les plus grosses taches de boue, le gamin loucha par-dessus les épaules de l'homme qui l'attendait là, vers une forme humaine immobile, enveloppée d'un grand manteau et couchée face contre la muraille sur le lit. « Eh bien, » dit l'homme qui avait ouvert au jeune garçon. Il avait une voix singulièrement agréable et musicale, était mince, très brun ou très fin, mais en ce moment rigide et énigmatique. Il avait posé sur la table son pardessus et son chapeau de soie et portait à la boutonnière de son smoking un bouquet, un peu trop gros peut-être, de violettes de Parme. Sur ce gentleman, le jeune commissionnaire ne savait pas grand-chose, si ce n'est qu'il était étranger, assez original, habitait une belle maison de la place Portland et payait fort bien les petits services qu'on lui rendait. Il rendit compte de sa mission, sans oublier la récente attaque dont il venait d'être l'objet dans la rue. L'homme l'écouta attentivement, les coudes sur la table, la tête entre les mains. Un gros rubis taillé en tête de serpent brillait à son petit doigt. Il se leva. « C'est tout pour ce soir, mon garçon, » dit-il. Il tira une pièce d'or de son porte-monnaie et la remit au messager. « Voici pour ta peine, » dit-il, et lui remettant une seconde pièce, « et voici pour ton silence. Comprends-tu ?» Le gamin fit un signe affirmatif tout en continuant de jeter à la dérobée des regards obliques vers la forme étendue sur le lit et qui n'avait pas bougé. « Tu peux t'en aller. » Le jeune garçon ne se le fit pas dire deux fois. À peine la porte s'était-elle refermée sur lui, que d'une autre pièce sortit Farrington. Il n'avait précédé le petit messager que de quelques minutes. En apercevant l'homme au rubis, il se rassit. « Enfin, s'écria-t-il, ça marche, les roues commencent à tourner !» L'autre inclina gravement la tête. Lui aussi, dès son entrée, ne semblait plus pouvoir détacher son regard de la forme immobile sur le lit. « Les roues feront encore quelques bons tours avant la fin de la nuit, » répliqua-t-il. « Mais je n'ai pas besoin de vous le dire, n'est-ce pas, mon cher Poltavo, que nous ne devons nous aventurer qu'avec la plus extrême précaution. Un seul faux pas au début, l'éveil du plus léger soupçon et tout notre édifice est par terre. »« C'est la pure vérité, monsieur Farrington, » murmura Poltavo en baissant la tête pour respirer ces violettes, mais vous oubliez une petite chose, à savoir que ce bel édifice dont vous parlez, je ne le connais pas. Votre extrême prudence vous a empêché jusqu'à présent de m'en parler en détail. » Ce disant, il considérait son interlocuteur d'un air ironique et souriant que la fermeté et la fixité de ses regards démentaient en une grande mesure. « N'est-ce pas exact? Vous me laissez dans l'ombre et le brouillard du dehors, c'est le cas de le dire, et je ne suis pas même au courant de vos plans immédiats. » M. Farrington paraissait mal à l'aise. « Mais il y a des questions fort compliquées, » commença-t-il avec un enjouement affecté. « Mais il y en a d'autres plus pressantes, » interrompit Poltavo. « Je remarque par exemple que votre main droite paraît beaucoup plus grosse que la gauche. Je suppose donc que sous votre gant blanc se trouve un pansement. Vraiment, M. Farrington, pour un homme si riche, vous êtes terriblement dissimulé. » « Allons, allons !» fit Farrington d'une voix sourde. Mais son interlocuteur ne prit pas garde à l'interruption. « Mon cher monsieur, » poursuivit-il gravement, « permettez-moi de vous donner un bon conseil qui sera, je croyez-moi, tout à fait désintéressé. Faites-moi part de vos projets, faites appel à moi. Je sais que vous avez besoin de quelqu'un, je vous ai déjà donné des preuves de mon dévouement. » Cet après-midi, au cours de la visite que je vous ai faite chez vous, lorsque je vous ai déjà indiqué qu'un homme de ma valeur pouvait vous être d'une utilité énorme, vous m'avez paru hésitant et soupçonneux. Et puis, après vous avoir conté mes expériences acquises dans le bureau d'un prétendu journal mondain, vous m'avez paru irrité. Mais voyons franchement, que voulez-vous que je vous dise de plus ? Je suis sans le sou, j'ai perdu les parchemins qui prouvent mon droit au titre de comte. J'ai triché aux cartes, où il s'en est fallu de peu que je ne sois un meurtrier. J'ai absolument besoin d'un homme riche et considéré qui me patronne. Puis-je parler avec plus de franchise ? Il fit une légère révérence et reprit. Vous avez exigé des preuves de mes capacités, eh bien... Ce soir, en entrant au théâtre, vous avez été averti par mes soins que le chef de la police, Tibby Smith, qui est un homme remarquablement intelligent, vous faisait surveiller et avait fait cerner le théâtre par ses agents. En outre, le petit messager que je vous ai envoyé vous a servi vous-même en d'autres occasions. Ainsi, du premier coup, je vous prouve que je suis au courant des intentions cachées de la police et que j'ai découvert le lieu secret de vos rendez-vous, ici. » Il enveloppa la chambre du geste, sa main s'arrêtant à dessein dans la direction du lit. « Vous m'intéressez ?» déclara M. Farrington d'une voix rude. Il regarda sa montre. « Venez avec moi au théâtre, nous pourrons causer, et par la même occasion, désorganiser les plans de ce bon Smith. » Il sourit en prononçant ces derniers mots, puis redevint subitement grave en montrant du geste la forme immobile sur le lit. « Cet ami que je viens de perdre, vous pourrez peut-être le remplacer. À propos, est-ce bien exact que vous connaissez la mécanique ?»« Oh oui, j'ai un diplôme d'ingénieur dans ma poche, » répondit Poltavo.